Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour Stéphane, bienvenue sur les voies de la franchise.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler isolation, écologie, développement de réseau. Je vous laisse vous présenter.
Oui, alors je m'appelle Stéphane Lagneau, je suis le directeur du réseau d'une enseigne qui s'appelle Isocomble, donc le directeur du réseau franchise et succursale de ce réseau. C'est un réseau qui comporte aujourd'hui 20 agences, principalement dans le sud, et qui demande qu'à se développer.
Très bien. Alors, principalement dans le sud, c'est dans quelle région exactement?
On est natif du sud-ouest, à Marmande, donc à côté de Bordeaux. Donc forcément, par essence, on a commencé à développer tout autour de chez nous. Maintenant, tout le sud-ouest est bien implanté. Le sud-est est en cours de belle implantation. Et maintenant, notre désir, c'est vraiment de remonter sur le centre France et le nord de la France.
Et Isocomble, c'est un groupe, une entreprise qui fait partie d'un plus grand groupe, je crois, qui est familial, qui a été créé par la famille Weck, c'est ça?
La famille Weck, exactement.
Weck, on dit, pardon.
Ils tiennent à la prononciation de leur nom.
Oui, ils ont raison.
Le groupe, à l'origine, est basé toujours sur l'isolation. Leur métier, c'est l'isolation. Mais l'isolation en direction d'une population B2B. Sur les entreprises, sur les grands ensembles, sur les entreprises et ce genre de choses. Ils ont aujourd'hui presque 40 années d'existence. Ça a été créé par le grand-père. Le père a pris la suite. Aujourd'hui, il s'est dirigé par Christophe Weck, donc le fils de la maison, qui porte encore aujourd'hui haut les couleurs de cette entreprise.
Très bien. Et vous êtes arrivé il y a 6 mois.
Tout à fait.
Vous venez du chocolat, je crois.
Je viens du chocolat, effectivement. J'ai fait toute une carrière dans le chocolat.
Alors, quand on passe du chocolat à l'isolation des combles, il manque le côté dégustation, gourmandise, et qu'est-ce qu'on gagne ?
Il manque effectivement le côté dégustation et gourmandise, il manque le retail, parce que le chocolat se vend en magasin de détail, et donc par la force des choses, c'est une expérience différente. On gagne en arrivant dans une société comme Isocomble, une société qui a un potentiel bien plus gros d'augmentation et de progression que le monde du chocolat aujourd'hui, qui est un marché totalement mature, avec des opérateurs extrêmement bien installés, et un milieu qui est relativement peu mouvant. L'isolation permet aujourd'hui d'avoir une page quasiment blanche, et de savoir que dans les 5 ans qui suivent, le monde va réellement changer.
Alors pourquoi il va réellement changer? Qu'est-ce qui fait changer, à part peut-être aujourd'hui le 1 euro isolation dont on entend parler et qui est très fort en prospection auprès de tout le monde aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui fait que demain tout ça va exploser?
L'isolation va exploser, commence déjà à exploser, à bien exploser, mais continuera à être très 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 porteuse, dans la mesure où la notion d'économie d'énergie est enfin rentrée dans toutes les maisons. Toutes les personnes aujourd'hui dans toutes les maisons savent que il faut moins consommer d'énergie, il faut être plus raisonnable, il faut essayer d'acquérir plus de confort, mais en étant moins dispendieux sur la note énergétique, parce que la planète souffre, parce que la planète vit pas bien, et que on sait que nos ressources sont aujourd'hui limitées. Et l'écologie et l'économie d'énergie aujourd'hui est le créneau porteur, puisque l'enjeu, il est pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Toutes les politiques des États aujourd'hui, toutes les manifestations qu'on voit avec les jeunes qui essaient de défendre la planète et qui crient à qui veut les entendre que la planète doit être sauvée, parce que c'est eux qui vont avoir à assumer notre passif, fait que aujourd'hui, on est rentré dans un système qui va être obligé de consommer moins. Et la meilleure façon de ne pas dépenser d'énergie, c'est d'être bien isolé, c'est de l'économiser au maximum.
Je crois que vous avez aussi une sensibilisation chez Isocomble encore plus forte, puisque par les matériaux que vous utilisez, il y a du recyclage de vêtements, je crois, dans les matériaux que vous utilisez pour isoler.
Tout à fait. Partir du principe qu'on va isoler les maisons, c'est déjà un postulat assez vertueux et c'est déjà plutôt très très bien.
Oui.
Nous, on pousse le bouchon encore un tout petit peu plus loin. C'est que quitte à isoler une maison, autant le faire avec quelque chose qui a le bilan carbone le plus bas possible et qui assure aux occupants de la maison de ne pas avoir de nanoparticules, de dégagement d'odeur ou de produits un petit peu agressifs. Christovec a fait le choix de s'associer dans une entreprise en Espagne qui nous permet de produire notre propre isolant. Isocomble est aujourd'hui en France le seul installateur et vendeur et fabricant d'isolant. On fabrique notre propre isolant qu'on a appelé Isotextile, qui est le fruit du recyclage de chutes de coton neuf. Pourquoi on insiste vraiment sur le coton neuf, c'est que à partir du moment où le coton est neuf, on garde déjà la certification du produit. Donc la certification du coton, elle est gardée parce qu'on l'a pas transformé. Et puis surtout, on n'est pas obligé ni de nettoyer, ni de désinfecter, ni de décontaminer le produit. On n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de détergent et pas de produits agressifs. La seule chose qu'on fait, c'est que on met un traitement qui inifuge le produit, donc qui le rend ininflammable, ce qui permet d'avoir un produit totalement neutre. Je fais souvent le test moi avec mes futurs franchisés. C'est dans une vase qu'on a on a l'isotextile. Je peux mettre ma main dedans. J'ai aucune irritation. La seule chose que j'ai, c'est chaud. C'est si on prend une laine de verre par exemple ou une laine de roche, le simple fait de mettre la main dedans, on est irrité parce que le produit est irritant.
D'accord. Très bien. Et donc vous êtes arrivé donc il y a 6 mois chez Isocomble, directeur de réseau. C'est quoi le quotidien d'un directeur de réseau?
Le quotidien d'un directeur de réseau, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. C'est la fonction d'un directeur de réseau, c'est de mettre l'huile suffisante dans les rouages pour que globalement les franchisés puissent exercer leur activité de la façon la plus fluide, la plus facile et la plus cohérente possible. Donc mon métier à moi, c'est d'être un monsieur loyal dans le système de la franchise Isocomble. Chez Isocomble également, on a cumulé et on a fait en sorte de regrouper non seulement la gestion des franchisés, le directeur du réseau franchise, mais également le directeur du réseau succursale et la fonction développement.
Alors ça se répartit comment entre les succursales et les franchisés chez vous ?
Aujourd'hui, on a une vingtaine donc d'agences en tout en France. On a 5 agences succursales. La volonté, c'est d'équilibrer et d'essayer d'avoir une 30% du réseau qui soit détenu en propre par l'enseigne.
C'est quoi l'avantage d'avoir ses propres agences et de développer en même temps les franchises ?
Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça rassure. Ça rassure un porteur de projet de savoir que le franchiseur est capable d'investir dans son propre réseau et de faire fonctionner son propre réseau. Ça rassure les banques également parce que on est partie prenante, on a mis de l'argent aussi dans notre réseau et ça permet aussi de faire du financement un peu plus facilement. Et puis surtout pour nous, c'est la clé de notre pertinence. Si je suis bon dans mon réseau et si je suis productif dans mon réseau, si je gagne de l'argent avec mon réseau, c'est que globalement, un franchisé peut faire de même.
D'accord.
Et donc, je valide le concept à l'entrée et la question ne se pose plus. Le doute chez le porteur de projet, quel qu'il soit, pour n'importe quelle enseigne, c'est de se dire, qu'est-ce qui me prouve que le savoir-faire du franchiseur est bien éprouvé et que je vais pouvoir miser mes quelques sous et mes économies dans ce concept-là pour gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, je le prouve.
D'accord.
La plus grosse agence en termes de prise de commande aujourd'hui, c'est une agence succursale.
D'accord. Et donc là, pour le développement des succursales, votre enjeu et la limite, c'est quoi en fait?
L'enjeu, c'est de se positionner dans les endroits où on est capable de faire du business et où on sait par avance qu'un franchisé aura du mal à s'y implanter. Par exemple, on réfléchit réellement à cerner la région parisienne parce que ça va être un enjeu réel. Et puis surtout, ça va être gourmand en termes de trésorerie et gourmand en termes d'investissement. Je ne peux pas avoir un franchisé qui va me faire tout le tour de la région parisienne. C'est a priori à moi de le faire.
Oui, d'accord.
Par contre, la limite, c'est comme tout le monde. La limite, c'est notre capacité d'investissement et notre capacité à pouvoir manager tout ce petit monde-là. Une agence succursale aujourd'hui, c'est chez nous un minimum de 3 vendeurs. 3 vendeurs multipliés par une vingtaine, ça nécessite aujourd'hui une structure qu'on est en train de mettre en place, mais qui va grandir au fur et à mesure. Et c'est notre principale contrainte, c'est de faire attention de ne pas faire grandir le réseau plus vite que la structure.
D'accord. Et donc vous êtes à la fois en charge de créer ces nouvelles succursales et à la fois de recruter des franchisés.
Tout à fait.
Donc un gros job.
J'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer.
Oui, je comprends, mais. Et donc, pour les franchisés, ils arrivent chez vous spontanément ou vous allez les recruter dans des salons, les deux, ça se passe comment?
On fait les deux. On recrute à l'ancienne, forcément, avec les salons de franchise, avec le salon de la franchise à Paris, Franchise Expo, qui est le rendez-vous de la franchise nationale. On fait des petites opérations de recrutement, comme la semaine dernière à Dijon et à Metz, dans le cadre d'Entreprendre en franchise.
Oui, il y a eu une grosse semaine.
Voilà, il y a une grosse semaine où on a parlé beaucoup de franchise. Oui. Moi, j'ai participé à la table ronde de la Fédération française de la franchise à Metz le mardi. Et donc, les CCI organisent un mini-salon en plus, ce qui nous permet, sur le coup, pas forcément d'avoir beaucoup de contacts, mais d'avoir des contacts extrêmement locaux.
Oui.
Et donc, les gens qui sont que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré quelques-uns, sont tous des gens du cru et qui, aujourd'hui, sont désireux de développer une entreprise, mais vraiment à l'endroit où on les a rencontrés.
C'est une tendance assez forte, je l'ai déjà entendu, effectivement, de la part d'autres franchiseurs, de se dire qu'il fallait qu'ils aillent sur les territoires pour pouvoir recruter, qu'il y avait plus de pertinence, qu'ils rencontraient des gens plus motivés peut-être, parce qu'ils étaient vraiment sur leur territoire et que c'était là qu'ils avaient envie de créer de la richesse.
C'est exactement ça. C'est quand on est sur un salon comme Franchise Expo, on est sur un planning d'ouverture à minimum 6 mois. C'est assez rare qu'on fasse une affaire tout de suite et que dans les 3-4 mois après, on signe un contrat. Principalement parce qu'on est à Paris, parce qu'on fait déplacer les gens de Marseille, de Lille ou d'ailleurs et qui viennent à notre rencontre et qu'en plus, on est en territoire conquis parce que tous les gens qui sont sur le salon de la franchise sont de vrais professionnels et on est un peu à la maison, faut tout à fait l'avouer. Et donc, il y a un biais qui s'installe entre le porteur de projet qui vient chez vous et qui est dans une position de demandeur. Quand on est local, quand on se déplace en local, on est globalement sur le terrain du porteur de projet. Le porteur de projet connaît son périmètre, oui. Il connaît son endroit, et c'est à nous de calquer derrière. Et nous, après, et notre métier à nous, il est encore plus exacerbé, c'est que notre métier à nous, ça va être de convaincre. Et de convaincre que pour la personne qu'on rencontre, notre concept est le meilleur pour lui.
Et ces personnes que vous rencontrez, elles ont un profil type? Elles viennent du bâtiment, c'est de la reconversion.
C'est obligatoirement de la reconversion. Quoi qu'il arrive, le milieu de la franchise est un milieu de reconversion. On touche. Alors, je peux pas avoir de statistiques parce que c'est assez varié. On a la chance d'avoir un métier qui n'est pas extrêmement complexe techniquement, donc ça permet de faire rentrer pas mal de gens. Je raconte toujours, j'ai un de mes franchisés qui est un ancien Parisien, qui habitait Paris avant, et qui surtout travaillait sur la Tour Eiffel, il changeait les ampoules de la Tour Eiffel.
Ah oui.
Et donc aujourd'hui, ce gars-là est rentré en franchise, il a un grand succès dans notre franchise, alors que absolument rien ne disposait cette personne-là à devenir son propre patron et à devenir le chef d'une petite entreprise qui a aujourd'hui 6 salariés.
À part l'altitude peut-être.
À part l'altitude peut-être. Et quoi qu'il montait beaucoup plus haut. Aujourd'hui, le profil que nous on va rechercher, ça va être en priorité quelqu'un pour qui le commerce a une vraie importance et qui a une notion du commerce assez développée. Si en plus la personne connaît le commerce de proximité et l'entrée chez les gens, c'est bien mieux. Mais c'est pas forcément un prérequis. Il faut forcément un a priori sur le bâtiment un peu développé.
Oui.
C'est à la base d'un très bon bricoleur, mais il faut au moins avoir ça. Mais nous, ce qu'on demande en priorité, c'est des gens qui sont capables de s'investir dans un projet et de mener le projet au bout, d'avoir une vraie clairvoyance sur ce qu'est une entreprise, sur ce qu'est le management d'une équipe de 5 à 6 personnes, sur ce qu'est la vie quotidienne d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre recrutement, je fais aussi passer des entretiens qui ressemblent peu ou prou à des entretiens d'embauche.
Oui.
C'est-à-dire, je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux savoir où en est le candidat de sa réflexion. On rencontre des candidats qui sont parfois au tout début d'une réflexion en se disant j'en ai assez de mon patron,
oui.
Il va falloir que je change. C'est pas la même chose que de dire je suis sur le point de demander ma conventionnelle, je sais de quels moyens je vais disposer, je veux faire une activité dans le bâtiment, vous êtes intéressant parce que vous avez un esprit qui me ressemble et je veux entrer chez vous. C'est ça se chiffre en mois ou en années, la différence.
Et quand ils vous disent vous avez un esprit qui me ressemble, qu'est-ce qu'ils citent comme éléments qui les ont frappés, qui ont fait tilt chez eux en disant c'est chez Iso Comble que je veux aller.
Ce qui fait tilt en premier, c'est et là c'est vraiment c'est à 90% des gens que j'ai rencontrés jusque maintenant, ça a été ça, c'est Iso Textile, c'est notre produit phare. Le fait que non seulement on soit les seuls à pouvoir brandir un produit iconique et de dire on a l'exclusivité de ce produit-là, mais que surtout ce produit-là soit un produit vertueux. C'est bien sûr, on est tous les gens que je rencontre sont conscients qu'on peut faire du business dans l'isolation et qu'on peut très bien gagner sa vie dans l'isolation, mais par contre, ils veulent pas le faire n'importe comment. C'est faire de l'argent, d'accord, mais pas au détriment d'autres choses, pas en abîmant la planète, pas en bousculant les choses. On veut vraiment faire un business qui soit en même temps apport de valeur.
Donc ça, c'est ce que les candidats à la franchise vous disent. Et vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Quelle est la valeur que vous auriez envie de partager en priorité pour recruter?
Nous, aujourd'hui, on a quelques valeurs un peu clés qui viennent de l'historique d'Iso Comble, de l'historique d'une entreprise qui est une entreprise familiale, des valeurs familiales, des valeurs de proximité et d'intérêt et de respect surtout. On met en avant toute la partie biosourcée, éco-sourcée, toute la partie vertueuse de notre produit, parce que c'est quelque chose en quel on croit vraiment, et toutes les activités annexes qu'on est en train de développer sont dans le même schéma, puisqu'on est en train de développer une méthode de nettoyage de toiture qui se fait sans détergent.
D'accord.
Donc uniquement à l'eau claire et respectueux du support également. Mais ce qu'on essaye nous d'inculquer au réseau, ce sont des valeurs vraiment de respect, de bienveillance et de respect mutuel. On ne fait pas des affaires n'importe comment, on ne fait surtout pas des affaires avec n'importe qui en traitant les gens n'importe comment.
D'accord.
Les gens qui rentrent chez nous sont là pour un vrai projet. Mon rôle à moi, c'est de faire fructifier ce projet. Mon deuxième rôle, et j'allais dire même le premier rôle ex aequo, c'est de faire fructifier mon entreprise. Ceci étant, je veux absolument qu'on le fasse en bonne intelligence et avec une vraie notion de partage.
Et donc là, pour l'instant, vous avez combien de candidats, par exemple, à la franchise ?
Là, si je fais le décompte, je dois avoir entre 5 et 10 candidats qui sont dans les parages, sur lesquels on est en train de discuter, sur lesquels on a fait parfois le premier entretien physique, mais sur lesquels on va se suivre. C'est pas une science exacte. Le développement de franchise n'a jamais été une science exacte, mais par contre, on a de plus en plus de demandes. Et aujourd'hui, depuis que je suis arrivé, donc en février dernier, le premier travail qu'on a fait tous ensemble, c'est de rendre Iso Comble à nouveau visible.
D'accord.
On avait perdu un petit peu de visibilité parce qu'on était à fond dans notre métier et qu'on a oublié de communiquer. Là, on revient sur le chemin de la communication. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aussi, parce que si on n'est pas visible, forcément, les gens penseront pas à nous. J'ai la chance.
On espère que les voix de la franchise vont vous y aider. En tout cas, on va tout faire pour.
Ce serait bien.
Voilà. Et donc, le parcours de ces 5-10, ça, il y a combien d'étapes? Ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Ça va être variable, bien sûr, en fonction des gens, mais en moyenne?
La durée, c'est entre 4 et 6 mois. Entre le premier rendez-vous, la première poignée de main et le moment où on ouvre réellement l'agence. Le parcours, il est plutôt similaire à chaque fois. C'est un premier contact sur un salon de franchise via une annonce dans un journal de franchise ou via un site internet, avec un premier entretien d'à peu près 30 minutes qui permet de nouer le premier contact, de voir un petit peu à qui on a affaire. Je prends en général à la suite un rendez-vous d'une heure et demie. Un rendez-vous
D'accord.
physique chez les gens ou à proximité de là où ils habitent, qui là va me permettre globalement de jauger complètement la personne et surtout de connaître l'avancement du projet, savoir
D'accord.
où on en est et qu'est-ce qu'on va permettre de faire après. À la suite de ça, je propose toujours 2 journées de découverte du réseau qui permettent à la personne de venir à Marmande, de passer une journée avec nos commerciaux et une journée avec nos équipes de pose, ce qui lui permet, à la suite de ces 2 journées de découverte-là, de vraiment trancher. Oui, je m'y vois, oui, ça peut être ma vie et ça peut être sympa de vivre ça,
ouais.
Ou alors, définitivement, c'est pas ma vie, je me suis trompé, excusez-nous, et on se quitte, bon
D'accord.
ami. À partir de là, si jamais on a la validation de dire, oui, ça peut être ma vie et ça peut m'intéresser, à ce moment-là, on peut commencer à accélérer sur la recherche du local, la recherche du financement, la mise en place du business plan,
D'accord.
pas forcément dans cet ordre-là, mais on fais le vrai travail préparatoire. Tant que je n'ai pas eu les journées de découverte, le travail il est encore un petit peu diffus et on travaille pas vraiment sur le dossier, mais on est en phase d'approche. Une fois qu'on a fait les journées de découverte, là on peut vraiment travailler dans le dur et amener toute l'aide qu'un franchiseur peut amener pour faire un développement et une ouverture dans d'agence.
D'accord. Et est-ce qu'en général ils prennent contact avec d'autres franchisés? C'est quelque chose que vous leur proposez ou est-ce que c'est ils prennent l'initiative de le faire? Est-ce que ça se fait? Est-ce que
alors ça se fait aujourd'hui? Alors il y a à peu près 10 ans, ça se faisait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on était sur une enseigne, on en dérogeait pas, on rentrait, on avançait. Aujourd'hui, on a une clientèle et un pool de prospects qui est beaucoup plus incertain sur son choix, qui va aller contacter la franchise de fleurs, mais aussi la franchise d'isolation et éventuellement le chocolatier d'à côté.
D'accord.
Et ils vont vivre en parallèle sur 3, 4, 5 concepts jusqu'au moment où on va arriver au choix final.
Ah oui, d'accord.
Parce que ils auront eu des entretiens avec les développeurs et avec les directeurs réseau et ça permettra de faire mûrir un choix et de se dire je me vois plus dans cette activité là que sur autre chose.
D'accord.
Et c'est finalement plutôt sain. Parce que on se rend compte à la fin que les gens qui signent avec nous ou qui signent pour un métier le font autant pour le concept en lui-même que pour le personnel qui anime ce concept. Et ça, c'est vraiment plutôt valorisant.
Très bien. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la Fédération française de la franchise dont vous êtes adhérent, oui. Hein, ISO Comble est adhérent. Pourquoi on adhère à Fédération française de la franchise? Est-ce que ça amène des choses en particulier, un plus, des garanties?
Ça amène principalement une rassurance du prospect. C'est-à-dire que le fait d'être affilié à une fédération comme la Fédération française de la franchise, c'est non pas une certitude qu'on ne se trompe pas, parce que l'erreur est inhérente au métier, mais c'est surtout la garantie pour un candidat d'avoir une entreprise qui va respecter une charte assez précise. Nous, on trouve dans la Fédération française de la franchise un véritable appui. Parce que leurs juristes sont capables aujourd'hui de nous éclairer quand on a des besoins, leurs équipes sont capables de nous éclairer également, et moi personnellement en tant que directeur de réseau, ça me permet aussi de pouvoir avoir facilement le contact avec d'autres adhérents et de confronter parfois des problèmes, parfois des questions auxquelles moi j'arrive pas à répondre, mais où d'autres ont forcément la réponse parce qu'ils ont été confrontés au même problème.
Donc c'est un lieu de rencontre aussi de pairs, enfin de gens comme vous et qui ont le même.
Exactement, c'est devenu et c'est de plus en plus un vrai réseau de fonctionnement entre franchiseurs.
D'accord, et vous échangez spontanément, facilement entre vous, c'est une pratique qui se fait souvent entre franchiseurs.
Alors le monde de la franchise est un tout petit monde.
Oui.
On finit tous par se rencontrer un jour, par se connaître, par se croiser. Salon de la franchise pour ça, Franchise Expo est un catalyseur de réseau assez phénoménal parce que si on en fait 2 ou 3 à la suite, on finit par rencontrer toujours les mêmes personnes et on finit par parler avec un peu tout le monde. Mais la fédération aussi organise des réunions régionales, différentes réunions d'information qui permettent globalement, suivant les thèmes, de rencontrer des personnes différentes et surtout des personnes qui souvent ont les mêmes prérogatives et les mêmes problèmes que nous. Comme dans toutes les réunions, hein, ce qui est le plus intéressant souvent, c'est ce qui se passe en dehors de la réunion et dans les couloirs. Et c'est souvent les échanges qu'il y a dans les couloirs qui sont réellement intéressants.
On s'est rencontrés d'ailleurs sur le Franchise Business Club, qui est la nouvelle plateforme, le nouveau réseau créé par Jean Sempere. Est-ce que là aussi, c'était un choix de pouvoir échanger avec des gens, d'augmenter votre visibilité? Qu'est-ce que du coup vous en ressortez?
Alors, c'est Jean Sempere qui m'a appelé juste après ma nomination chez ISO Comble en me disant « J'ai créé un réseau social, ce serait bien que vous veniez faire un tour pour y adhérer. » J'ai toujours été, moi, extrêmement client des réseaux digitaux. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. Et donc, par la force des choses, un réseau social où on parle globalement d'un de mes principaux intérêts, ça ne peut être que forcément intéressant. C'est pour ça que j'y ai adhéré, en me disant, dans les quelques premiers mois, je vais juste lire, regarder ce qui s'y passe, sonder un petit peu, et voir globalement comment ça tourne. Maintenant, je commence à y voir un principal intérêt, c'est que je vois que les échanges sont plutôt intéressants et que surtout, il y a des questions qui sont abordées, qui sont des questions qui me parlent. Et par la force des choses, on est tous pareils, hein, on n'a pas la science infuse. Et avoir des gens qui sont des professionnels, qui ont souvent eu d'autres étapes dans leur vie, permet aussi de monter en compétences et de monter en savoir.
Très bien. Justement, les réseaux sociaux, le digital et l'isolation des combles, comment ça cohabite ?
Ça fait plus que cohabiter, c'est totalement intégré. Et c'est intégré depuis quelques années seulement. C'est pas natif. Par la force des choses, on isole des maisons et des maisons physiques. On rencontre des gens physiques.
Oui.
Et donc normalement, si on est un peu rationnel, le digital n'a absolument rien à voir là-dedans. Par contre, l'acquisition du contact, l'acquisition du client est devenue principalement grâce aux aides de l'État et au fait que l'isolation dite à 1 euro est arrivée. Ça a juste permis d'avoir chez le client le besoin de rencontrer un professionnel très très rapidement. Et la seule façon de rencontrer un professionnel rapidement, c'est d'aller sur internet, de taper « je veux isoler ma maison à tel endroit » et d'avoir la liste des personnes.
D'accord.
Aujourd'hui, l'acquisition des contacts par voie digitale représente tout mode confondu, à peu près 60% de notre activité.
D'accord. Et vous faites quoi pour être les mieux placés sur Google dans la recherche ?
On donne ça à quelqu'un dont c'est le métier.
Oui, d'accord.
On travaille avec une société qui s'appelle InLead,
oui.
Qui est notre gestionnaire de campagne digitale, avec qui on a réussi à s'apprivoiser, à se connaître,
oui.
pour qu'ils connaissent nos prérogatives, qu'ils connaissent nos problèmes et qu'ils puissent nous trouver les solutions. Parce
d'accord.
que finalement, c'est eux les,
oui, bien sûr.
C'est eux les professionnels dans l'histoire.
D'accord.
Aujourd'hui, on est sur une phase extrêmement ascendante du nombre de contacts qu'on récupère par le biais des publicités Google, mais Facebook également.
D'accord. Et vous avez aussi un système d'avis avec avis vérifié ?
Tout à fait.
Donc, qui couvre une partie du process ?
Alors, qui couvre aujourd'hui normalement tout le process, mais qui est vraiment focalisé sur la partie technique du métier, sur la partie soufflage. Les questions qu'on pose à nos clients sont beaucoup plus sur la relation entre le client et le poseur et sur le travail qu'on a effectué. C'est un très très bon indicateur parce que ça nous permet à nous de pouvoir corriger, de pouvoir piloter un réseau et de pouvoir expliquer au réseau faites attention parce que quand on vous dit du mal de vous, on dit aussi du mal de notre enseigne et
oui.
nous ça nous pose problème. Et puis surtout c'est comme notre métier est a priori un peu traumatisant puisqu'on rentre dans la maison, on va dans les combles des maisons, on a un commercial qui vient, qui est un petit peu intrusif parce qu'il va poser des questions sur la maison et sur la façon qu'ont les gens de vivre dans leur maison. On a besoin de réassurance. La réassurance, ça passe aussi par les avis que laissent nos clients.
Tout à
Quand
fait.
Ils sont bons, ça permet de bien prouver qu'on fait bien notre métier, puis surtout que les gens qui ont vécu l'expérience iso-comble sont contents de nous. Sur internet, il faut juste le savoir, on ne donne assez rarement un avis positif. Quand on donne un avis, il est négatif.
Oui.
On a plus facile à dire je suis pas content d'un tel, je suis pas content de tel truc, mais par contre aller spontanément et dire ces mecs là ils sont vraiment bien, ils ont fait du bon travail, c'est quand même relativement rare.
C'est de plus en plus vrai quand même.
Voilà.
Les gens aiment donner quand même reconnaître la qualité aussi, oui.
Et avis vérifié, encore une fois, est un professionnel qui nous permet, c'est un tiers de confiance qui nous permet globalement de déporter ce genre de choses, de pas être soupçonné de bidonner les choses. Ils sont plutôt très bien installés et d'avoir une série d'avis plutôt très pertinents.
Très bien. Quand on a discuté au préalable pour préparer un peu cet entretien, vous avez mis un accent assez fort sur la qualité de la relation humaine que vous essayez de développer et que vous développez à l'intérieur du réseau, mais aussi avec vos franchisés. Est-ce que c'est une valeur forte chez Isocomble, dans votre groupe sans doute aussi ?
C'est une valeur forte chez Isocomble et c'est une valeur fondatrice de mon métier à moi. Et j'ai la chance d'avoir rencontré une entreprise qui comporte les mêmes valeurs que moi, et ça permet d'aller plus vite. Mais je fais partie des gens qui sont persuadés que un réseau de franchise ne fonctionne pas si le lien humain n'est pas présent. Si on est là juste pour le business, ça n'a finalement pas grand intérêt. En tout cas, les franchisés ne sont pas rentrés, n'importe quelle franchise dans n'importe quel métier ne rentre pas uniquement que pour le côté financier de l'histoire.
Oui.
Il rentre aussi parce qu'il y a une relation qui s'installe avec l'enseigne et qu'on est fier d'appartenir à une enseigne.
J'avais une directrice de développement de réseau chez WeCare hier qui me disait on se choisit en fait entre le franchisé et le franchiseur, c'est plus une question de choix entre les deux et pas qu'une question de business.
Je suis assez d'accord. C'est si le business est bon, il y a un a priori favorable. Un bon concept, une belle enseigne, un bon profit prévisionnel, c'est le prérequis pour pouvoir ouvrir une franchise. Si la relation ne s'installe pas, si le déclic ne se fait pas entre le développeur du réseau et le prospect, même si l'affaire est excellente et même si le bénéfice prévisionnel est excellent, l'affaire ne se fera pas. A contrario, si jamais une enseigne est un petit peu faible, un petit peu pas encore au point, pas encore suffisamment structuré, mais que la relation s'installe bien avec le personnel du franchiseur, en général, l'affaire peut se faire et ça permet de grandir les uns avec les autres. Et globalement, c'est ce qu'Isocomble a vécu depuis sa création. Isocomble a appris le métier de franchiseur en même temps que les franchisés apprenaient le métier de franchisé.
D'accord. Donc, les enjeux d'Isocomble pour demain?
Pour demain et après.
Oui.
Les enjeux d'Isocomble, c'est développer. C'est faire d'Isocomble une vraie enseigne nationale et reconnue comme telle.
Ça passe à partir de combien d'agences, une vraie agence, une vraie marque nationale?
Alors, pour Isocomble, l'envie, c'est d'être aux environs de 70-80 agences.
D'accord.
Pour pouvoir couvrir réellement le territoire national, avec, comme je le disais tout à l'heure, un ratio important de succursales,
oui,
qu'on a fixé entre 25 et 30%.
D'accord, très bien. On va conclure cet entretien passionnant. On a couvert beaucoup de sujets sur la franchise, sur son développement. Eh bien, juste une dernière question. Quand vous doutez, Stéphane, qu'est-ce que vous faites?
J'allais dire, je reviens aux fondamentaux. Je reviens au début. Je reviens à mon passé de chef d'entreprise. Je reviens à mon passé de chef d'entreprise, d'une entreprise familiale, moi aussi, puisque j'ai eu ce vécu-là. Et je reviens vraiment aux sources et au tout début du métier et pourquoi je fais le métier que je fais aujourd'hui, le métier de directeur de réseau et de développeur de réseau. C'est ce qui enlève tous les doutes. En général, si vraiment je doute de mon métier, le simple fait de me remémorer le pourquoi j'y suis rentré, ça permet globalement de repartir de l'avant et d'aller très très fort. Mais je vous rassure, je doute assez rarement. Grâce à Isocomble, je doute plus maintenant.
Bon, eh ben merci beaucoup et puis à bientôt sur les voies de la franchise.
Merci.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voies de la franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoiesdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.